La volonté de Dieu dans les activités ordinaires. Quand on dit que tout, ou du moins beaucoup de choses, et pas des moindres de la vie humaine, est décrit dans les étoiles, on exprime ainsi la conviction générale que l'existence humaine, son bonheur ou son malheur, dépend de quelque façon et en quelque mesure de lois extramondaines et qui ne peuvent être saisies par les sciences et les efforts usuels de la raison. C'est quelque chose de semblable que le croyant chrétien représente aussi. Seulement, il se sait déterminé non par un destin physico-astronomique aveugle, mais par une volonté personnelle qui a tout créé et a donné un sens à toutes les créatures et a en même temps donné à l'homme la liberté spirituelle de correspondre ou pas à la volonté de Dieu et au sens de sa propre vie. De même que le matérialiste ne reconnaît aucune instance personnelle transcendante, dépassant le monde, mais subordonne tout aux lois pesantes et calculables de la physique et de la chimie, de même l'astrologie, en représentant un matérialisme cosmique astral, quand bien même poétique, peut constituer une négation de Dieu et une présomption sacrilège de l'homme. La volonté de Dieu, ce que Dieu a en vue avec ses créatures, ne peut être que bonne, car il est le bien lui-même, et lui et sa volonté ne peuvent qu'être bons. Sa volonté est aussi omnicompréhensive et universelle, et atteint jusqu'aux détails les plus infimes. Si quelque chose pouvait lui échapper, il ne serait pas Dieu, ni omniscient, ni tout-puissant. Tout donc a un sens en Dieu, en sa volonté, en sa science, à savoir donner à toute chose une belle et bonne valeur. Mais la volonté de Dieu est incognoscible en soi, comme Dieu lui-même. En se montrant cependant à travers la création, en se révélant à travers les créatures, il est manifeste aussi dans les créatures elles-mêmes qui sont l'amour, la bonté, la beauté, la volonté divine, donc à l'extérieur de Dieu. C'est ainsi que chaque créature porte en soi le plan, la volonté de Dieu, la pertinence. Cette volonté de Dieu sur toute la création a aussi une fin divine, celle de proclamer la manifestation de l'essence de Dieu, de la gloire divine. Tout a cette fin et pas d'autre. Appliquée concrètement à l'homme, pas simplement aux arbres, montagnes, animaux, étoiles, cette manifestation a en vue indirectement la perfection de l'homme. Tout homme est créé parce que Dieu veut que cet homme atteigne le déploiement total de ses possibilités, et c'est ce que nous, chrétiens, nous appelons la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, la sainteté de chacun, c'est-à-dire l'accomplissement du projet divin, l'identification totale avec la volonté de Dieu, et cela étant valable pour tous les hommes. C'est ce qu'il avait en vue avec moi lorsqu'il m'a créé, lorsqu'il m'a voulu, lorsqu'il m'a aimé de toute éternité, car tout est éternel en Dieu. Il a de toute éternité voulu projeter, aimer, créer chaque être dans son individualité. Ce qu'il a en vue avec chacun, ce que représente la véritable identité de chacun, c'est un grand mystère. Saint Paul l'appelle « Sacramentum voluntatis sui », le mystère de sa volonté. Comment accomplis-je ma finalité? C'est toujours un mystère. Il me faut toujours m'ouvrir, me mettre sans cesse à disposition. Toujours demander « Dieu, montre-moi mon chemin. Que veux-tu de moi? Comment atteindre mon but ?» Certainement existe-t-il aussi des chemins communs qui sont valables pour tous. Dieu a aussi montré ses chemins. Ce sont les commandements de Dieu, les 10 commandements gravés sur les tables de pierre de Moïse, puis les commandements de l'Église, car Jésus a confié à l'Église l'interprétation de ces révélations. Et finalement, les commandements adressés à chacun de nous, les devoirs d'État en relation avec la vocation spécifique unique de chacun. Qui ne suit pas ces indications personnelles, qui ne les respecte pas, blesse profondément la volonté de Dieu et met en jeu son destin éternel. Ressuscita-t-il des morts? Le saint évêque de Genève, François de Sales, disait « A été confié aux évêques la conduite des brebis, leur réconfort, leur encouragement, leur enseignement. Mais si je passais mes journées à prier et ma vie entière à jeûner, sans remplir mon devoir principal, je me damnerais. La première des choses, c'est ma vocation humaine, ma mission dans la famille, la profession, la société. Si on remplit ses premières obligations, on est absolument certain de se tenir dans la volonté divine. On garde en effet alors les commandements principaux de sa propre existence personnelle. Et on a commencé à aimer Dieu. Jésus a dit « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » La première chose sera l'accomplissement de nos tâches journalières propres. Saint José Maria disait toujours que la sainteté pour l'homme ne consiste pas à faire des choses de plus en plus difficiles, mais à accomplir sa propre tâche avec un amour toujours plus grand. C'est ce sur quoi j'aimerais particulièrement mettre l'accent aujourd'hui. D'abord, sa propre charge dans le monde, ensuite, l'accomplissement de cette charge avec un amour de plus en plus grand. Il consiste à remplir ses propres obligations rapidement et volontiers. Mais ceci n'est pas une petite chose. Cela signifie placer le centre de sa vie à l'extérieur du moi. Pour obtenir cette disponibilité, cette fraîcheur, cet élan, pour atteindre la vitalité chrétienne qui mène à ce que grandisse l'amour envers Dieu, il faudra d'abord exercer véritablement sa foi, rapporter sans cesse à la volonté de Dieu les choses de la vie quotidienne agréables et désagréables, car rien ne lui échappe. Je peux dire à bon droit que le pire aussi doit être rapporté à la volonté de Dieu et que tout cependant tournera au bien. Je dois apprendre cela et m'y exercer chaque jour. Rapporter tout ce qui arrive à sa volonté et tout approuver parce que tout est volonté de Dieu, que tout vient de sa main, qui assez souvent est la dure main d'un supérieur, du conjoint ou d'un collègue. Nous remplissons le devoir quotidien parce que Dieu le veut, parce qu'il nous a mis à cet endroit concret pour accomplir sa volonté. C'est le béaba de l'amour, mon oui à ma vie, à cet aujourd'hui de ma vie. Quand j'essaie de faire cela, et ce volontiers, alors je commence à être sien, comme le dit saint Paul, alors je n'appartiens plus à moi, mais à lui. Donc dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Je lui appartiens quand j'ose lui dire oui, quand, avec plus ou moins de courage, je m'écris comme le Christ, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Deuxièmement, nous devons considérer que tous les commandements de Dieu n'ont que mon bien pour effet. Dieu ne peut rien vouloir qui ne soit le meilleur pour moi. Ce serait une contradiction en Dieu même. Je peux renâcler, mais Dieu n'est Dieu que quand il prépare tout pour mon bien. Si je remplis mon devoir de l'heure, eh bien, je devrais le faire justement en ce sens chrétien concret. Par là, je m'unis à la volonté divine. Mais le devoir de l'heure serait carrément insupportable si je voulais servir et suivre non pas la volonté de Dieu, mais la mienne. Saint François de Sales disait un jour « Dieu apprécie beaucoup plus ma docilité que tous mes plans et actions les mieux conçus et même héroïques. » Il ajoute, dans sa Philotée, « De longues heures d'oraison, une grande activité dans l'Église ne pourrait lui plaire autant que l'amour envers le conjoint, le sacrifice pour la famille, etc. » Si le dévot néglige cela, il devient un faux dévot et aucune mystique, aucun zèle missionnaire ne le sauverait parce que la volonté de Dieu a un primat absolu. Dans la mesure où j'ai de moins en moins de volonté propre, j'accomplirai la volonté divine de façon plus décidée, plus prompte, meilleure. Ne nous laissons pas abuser. Il n'y a pas de vocation en ce monde sans désagréments, sans aspects et moments amers, sans périodes d'ennui et de désolation. Si l'on n'est pas prêt à accepter sa propre situation, son propre destin, sa propre vocation comme étant la volonté de Dieu, chacun voudra changer sa propre existence avec celle d'un autre, un peu comme ces malades avec une fièvre élevée qu'ils veulent constamment changer de position dans leur lit et ne trouvent jamais le repos, tourmentés par le moindre bruit. La cause de ce malaise est simplement la fièvre. Si la fièvre de la volonté propre disparaît, l'homme trouve partout à se satisfaire dans la mesure où la seule volonté de Dieu est respectée. Il ne se soucie même pas de la forme de service que Dieu attend de lui, ici, maintenant. Il ne désire que servir, malade ou en bonne santé, avec ou sans succès, aimé ou oublié, solitaire ou constamment sollicité par le prochain. Il dit « Serviam, je veux servir » et tout le reste lui est égal. Chaque jour, il aime Dieu plus et plus intimement, même s'il ne le ressent pas, même s'il ne fait rien d'extraordinaire dans la société, la famille ou l'Église. C'est ainsi et seulement ainsi, en remplissant à sa place sa tâche quotidienne propre, sans envier d'autres personnes ou rêver de situations meilleures, que l'on s'approche de Dieu. Et c'est le bien par excellence. Il s'agit de se modeler sur Dieu, afin que sa volonté devienne ma volonté, devenir un avec Dieu. Saint Paul dit à ce sujet des paroles exigeantes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour grandir en amour de Dieu, il ne faut pas seulement remplir son devoir avec exactitude, mais le faire aussi avec joie, non pas au sens du sentiment. Nous devons le faire volontiers parce que c'est sa volonté. On essaie de sourire, même s'il s'agit d'un devoir pénible, douloureux, même si cela signifie une dure épreuve pour mes inclinations et mes doux goûts, je dois m'efforcer de sourire. Que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé, dit saint Paul. Il me faut parfois souffrir, et je peux cependant lui sourire, à lui, l'éternel amoureux de mon âme. Parfois notre sourire est mêlé de larmes. Ne jamais fuir quand arrive la souffrance, ni non plus rêver ou cultiver l'envie. Dieu sait ce qu'il fait, et c'est pourquoi, suivant en cela une antique tradition chrétienne, on devrait dès le matin commencer par baiser le sol de la réalité et dire « Serviam » dans une attitude de fond pour toute la journée. Quand les contrariétés externes ou internes surgissent, alors pensons une nouvelle fois avec saint François de Sales que les saints et Jésus lui-même ont eu des choses beaucoup plus dures à supporter et que la valeur de nos actions réside dans la conformité avec la volonté de Dieu. Boire et manger, si je le fais parce que Dieu le veut, est plus agréable à Dieu que si j'endure le martyre. Disons souvent pendant la journée, « Tu le veux, mon Dieu, je le fais volontiers. » Saint José Maria parlait souvent d'un acte de conformité avec la volonté de Dieu. Tu le veux, Seigneur, je le veux aussi. C'est la chose la plus élevée, la plus précieuse que l'on puisse faire en ce monde, être en consonance avec la volonté de Dieu, cette capacité de l'homme à agir divinement. Là se déploie aussi peu à peu notre amour de Dieu. Par cet exercice, petit à petit, notre amour devient de plus en plus grand. Saint José Maria indique plusieurs degrés. Se résigner à la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Vouloir la volonté de Dieu. Aimer la volonté de Dieu. Tout cela sans faire de spectacle, de théâtre et en n'étant jamais pesant pour les autres. Cet accomplissement de la volonté de Dieu doit aussi se faire de façon douce aimable, simple, souriante, et n'être jamais pesante envers quiconque. Jésus n'a-t-il pas dit, pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Parfume-toi, ne fais pas étalage de ta souffrance, souris. La famille, les collègues de travail, les amis doivent trouver plus agréable, aimable, sympathique, cet aspect extérieur de l'accomplissement de la volonté divine. Saint José Maria nous dit « Ne sois pas un saint qui a besoin de deux autres saints pour le supporter. Ne fais pas triste mine, ne te pose pas en héros ni en victime, car cela ne pourra jamais plaire à Dieu ni à ton prochain. Un amour du prochain qui apparaît comme une concession ne sera pas accepté, et ce à bon droit. Une obéissance crispée, grincheuse, ne satisfait personne. Une piété qui pèse sur la famille ne sert ni Dieu ni attire les autres. Il faut se détacher de tout afin de suivre avec agilité la volonté de Dieu. Saint François de Sales disait que l'on ne devrait même pas être attaché à la vertu. La volonté de Dieu vient en premier. Il faut être ouvert, préparé, plein de vitalité, sans rigidité, toujours prêt à bondir. Que la volonté soit faite. Mon Seigneur et mon Dieu, implorons cela, aidons-nous et corrigeons-nous mutuellement afin que nos rigidités disparaissent peu à peu et que nous devenions toujours plus dociles et obéissants envers la volonté de Dieu, la volonté de notre éternel amoureux. Le cœur de Jésus, source d'amour et de souffrance. C'est par excellence le mystère de notre foi et de notre vie chrétienne. Le cœur est ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, le point de suture entre esprit et corps, le noyau même de l'existence, la chose la plus intime et originelle de chacun de nous, la source de toutes les émotions et des mouvements vitaux, et en même temps le réceptacle dans lequel pensée, passion, force de la volonté et pulsion retrouvent leur unité. Le cœur, c'est la personne, sa singularité, sa totalité irrépétible, donneur du sang et en même temps spirituel, d'une certaine façon la pointe de l'âme et par là donc quelque chose d'insondable. Il est plus intelligent que la raison, sage et folle, terrestre et assoiffé de ciel, fort et nécessiteux, toujours inquiet, cherchant toujours la paix et la consolation. Cet organe si charnel, point médian de l'homme, est habité dans le Christ par la plénitude de la divinité, selon les paroles de saint Paul que j'ai souvent répétées dans ma vie et qui m'émeuvent chaque fois profondément. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le ciel entier dans la chair. C'est le cœur du Rédempteur, du Sauveur, Sauveur de l'esprit et du corps, du matériel et du céleste. Venez adorer le plus profond mystère de Dieu, caché depuis des temps immémoriaux, le cœur du Fils de Dieu qui soudain descend et se fait chair. C'est le mystère du christianisme par excellence, divin et charnel, éternel et temporel, entièrement au ciel et entièrement sur terre. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Par le cœur de Jésus, nous savons qui est Dieu, et par lui nous voyons Dieu, l'invisible et l'incognoscible. Par ce cœur, Dieu a senti, il a pu souffrir, pleurer, se réjouir et se donner comme les amants de ce monde. Le cœur est l'incarnation de l'amour de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. À travers ce cœur, nous pouvons aussi l'aimer corporellement. Sainte Thérèse d'Avila dit que par l'incarnation, Dieu s'est rendu amabilis. Et Saint José Maria affirmait fréquemment que nous n'avons qu'un seul cœur et qu'avec ce cœur, nous pouvons aimer Dieu et le monde, nos semblables et nous-mêmes. Sainte Marguerite Marie Alacoque, une religieuse simple, pas très douée et moins encore cultivée, déprécié, moqué à cause de sa naïveté par ses consoeurs qui se gaussaient de son nom de famille, c'est elle justement qui un jour a vu le cœur de Jésus. Elle a vu un cœur de chair, d'où jaillissaient les flammes violentes de l'amour divin, torturées, transpercées par une couronne d'épines, celle des innombrables péchés de l'humanité, saignant continuellement. Ce cœur, dit-elle, est une mer sans rivage d'amour et de souffrance, qui exige notre amour, notre compassion, notre consolation. C'est l'image et l'incarnation du don de soi insondable de Dieu aux hommes. Une image, mais en même temps cette énorme réalité. Dieu se donne et divinise l'homme. C'est le condensé, le résumé de l'humanité et de la compassion de notre Rédempteur, de notre unique Sauveur. C'est l'unique chemin qui nous conduit à Dieu, un cœur qui veut notre cœur et qui nous dit « Donne-moi ton cœur », c'est-à-dire ta personne, ton corps et ton âme, ce « moi » qu'aucun autre ne pourrait remplacer. C'est notre cœur que Dieu veut de nous. Quand nous prions et essayons de vivre de foi, c'est le cœur que nous voulons lui donner, c'est ce centre de l'existence. Il nous faut avoir un cœur pour Dieu, pour le monde, pour les hommes. La cordialité ne doit pas être rabaissée à la sensiblerie, au sentimentalisme, à des soupirs et des sanglots. Le premier commandement, l'amour de Dieu, vient du cœur pour tout homme. Aucune émotion, aucune extériorité ne peut le remplir. Ce qu'il y a de plus profond dans la personne, la totalité de l'existence doit s'impliquer et se donner dans l'amour. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'exige pas un mouvement spirituel sans sang, sans inclination affective, sans tendresse. Nous devons nous humaniser de plus en plus. C'est le grand défi de la fête du Sacré-Cœur. Il nous faut devenir plus attentifs aux autres, plus aimables, pas seulement dans les profondeurs de l'âme, mais dans le regard, les gestes, les paroles. Car chacun a besoin de la chaleur et assurance de l'inclination aimable, de la main bienveillante, de l'attitude qui dit « Tu n'es jamais seul ». Saint José Maria rappelait à ses enfants spirituels « Si cette affection vient à manquer, vous avez tué l'œuvre de Dieu. Cela vaut également pour toutes les familles et communautés chrétiennes. Nous devons nous convertir et implorer à l'Esprit-Saint qu'il arrache de notre poitrine ce cœur de pierre, comme dit le prophète Ézéchiel, et nous donne un cœur de chair, un cœur nouveau, capable d'aimer Dieu et le prochain. L'amour de Dieu et même la folie qui le conduisit à mourir pour l'ami et l'ennemi, et enfin à se transformer en pain afin que l'homme puisse le manger et atteindre par là la plus haute union avec lui, fait que l'homme est empli de Dieu et que notre cœur s'enflamme enfin de telle sorte que nous atteignons l'unique gloire qui existe, la gloire de Dieu en nous. Certainement, plus cet amour grandit, plus il rend l'homme participant du crucifié. Plus grand l'amour, plus grande la douleur. En ce monde, l'amour n'est pas aimé, dit saint François d'Assise, parce que le cœur de Jésus saigne constamment. Parce qu'un disciple n'est pas au-dessus du maître, parce que le grand cœur de Jésus porte le poids de toute l'humanité. Certains ferment leur cœur pour éviter la douleur. Cette insensibilité n'est pas chrétienne, car le Fils de Dieu a voulu justement sauver le monde en devenant vrai homme, et le grand amoureux, le plus grand amoureux qu'ait connu l'histoire. C'est-à-dire qu'il est devenu l'homme des douleurs, qui a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Mais celui qui, avec lui, aime Dieu, qui aime le plus Dieu et avec lui les hommes, et qui souffre donc aussi avec lui, rencontrera la paix et la joie. « Mon joug est doux et mon fardeau léger, » dit Jésus. Et saint José Maria écrit que sa croix est une croix sans croix, elle n'est qu'amour. Cœur très saint et miséricordieux de Jésus, donne à ton Église déchirée, à chacun de nous, la paix. Cet amour, cette capacité à souffrir, cette paix et cette joie, nous les confions à Marie, car sans elle, il n'y aurait pas de cœur de Jésus.